Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h23, merci d'être avec nous hier, aujourd'hui, surtout avec Eric Orsona. Bonjour, vous êtes membre de l'Académie française et ambassadeur de l'Institut Pasteur. Et ce livre, assez étonnant, Cochon, voyage au pays du vivant, aux éditions Fayard Stock, où finalement on apprend que le cochon est au milieu, j'ai l'impression que c'est un point central entre de nos vies, sociales, médicales, sociétales. C'est vraiment le cochon qui est proche de nous.
C'est notre compagnie, parce que c'est une histoire qui commence il y a 8000 ans, au moment où on commence l'élevage. Et on commence l'élevage entre le Tigre et l'Euphrate, un endroit qui était l'endroit le plus fertile de toute cette partie de la planète. Imaginez, alors que c'est la guerre maintenant. Et c'est là où on apprend l'agriculture au lieu d'être uniquement cueillette, etc., et la chasse, et on élève. Et puis donc on dit à un animal un peu étrange, et on dit tiens, c'est le cochon. Donc on a le cochon, on s'aperçoit qu'il est bon à manger, donc il va s'étendre un peu partout. Donc il passe par l'Europe, où il rencontre des sangliers, donc il se mêle un peu comme ça. Et il y a un voyage par la mer, par la Méditerranée, et qui arrive en Corse. C'est pour ça qu'en Corse, avec une race qui s'appelle les Nustrales, ces Nustrales sont les seuls héritiers directs, et je pourrais dire purs, de ces cochons du début qui viennent de la Mésopotamie. Donc il y a un lien très étrange et très particulier et vérifié scientifiquement entre la Corse et la Mésopotamie. Mes copains corses me disent, mais comment tu sais ça? Et bien justement, en bossant
enfin
les filous.
Bah oui,
révélé.
Parce que là vous
enfin
êtes allés...
révélé.
Mais, et, non mais c'est vrai, vous êtes allés sur les traces des cochons, si je puis dire, un peu partout, quoi.
Ouais,
en Bretagne, mais bien ailleurs mais également.
Des animaux,
c'est
ça.
Des animaux. De manière des animaux.
Oui. Pourquoi? Alors parce que aussi, vous êtes intéressé par la médecine, par la science, vous n'êtes pas simplement un écrivain. Depuis de nombreuses années, vous vous y intéressez. Ben, vous êtes intéressé, par exemple, à l'Institut Pasteur. Là, on parle beaucoup de vaccins, etc.
Oui.
L'Institut Pasteur...
Non, mais imaginez, je suis élu par les hasards de la vie et puis des manigances. Je suis élu, comme ça, au fauteuil de Pasteur. Donc, je suis là, au fauteuil de Pasteur. Et à côté de moi, pendant 12 ans, tous les jeudis, il y a eu François Jacob, qui était un immense pasteurien, prix Nobel, etc. Et à chaque fois, il m'engueulait. Et il me disait, comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur? Donc travaille un peu. Parce qu'il me disait, tu as deux raisons d'être ignorant, tu es un économiste et tu es un romancier. Donc tu es à la fois ignorant et menteur. Donc essaye de te rapprocher de la science. Donc j'ai fait une biographie de Pasteur, j'ai bossé comme un malade. Et puis ils ont dit, c'est pas mal. Et donc comme ça, j'ai cet immense honneur d'avoir été nommé ambassadeur de Pasteur et du réseau. Ce qui donne des infos incroyables.
Et d'être crédible.
Crédible parce que c'est vérifié.
Bien sûr.
Je vais vous dire, c'est vérifié. Et cette chance des infos incroyables. Le confinement me demande, comment ça s'est passé? Le premier confinement, je me prépare au deuxième. Mais le premier confinement, comment ça s'est passé? Mais j'avais des contacts avec le monde entier. J'étais avec Phnom Penh sur les moustiques, j'étais avec ma prof.
Oui, c'est vrai.
Absolument. Ouais. J'étais avec ma prof de chauve-souris qui se trouve à Cayenne. Je salue Madame Lavergne, qui est une grande spécialiste mondiale des chauves-souris. Donc elle m'a appris ce que c'était que l'immunologie.
Ouais.
Mais voyez, avant que le SARS arrive, ce virus arrive.
Le pangolin qui nous délivre.
Je travaillais déjà sur le cochon depuis 2 ans et demi. Et j'étais en Ardennes, vous vous souvenez? On avait élevé, parce que vous, Sud Radio, mais vous intéressez au monde entier. Et aux Ardennes aussi, c'est ça ce qui est formidable.
Bien sûr.
Parce que le parlons vrai n'a pas de frontières.
Non.
Oui, c'est vrai.
Vous vous rendez compte? C'est bien de le rappeler,
Jean-Luc. Je continue comme ça.
On vous garde,
et donc,
on vous garde.
Oui, merci beaucoup. Et donc j'allais jusque dans les Ardennes, où on a élevé une sorte de barrière pour préserver des sangliers contaminés de Belgique. Donc j'étais en plein dans cette question déjà d'épidémie. Donc j'ai pas du tout été surpris. Puisque j'avais précédemment travaillé sur les moustiques, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Géopolitique des moustiques », et pour être franc, je croyais, et ça le Sud est particulièrement menacé, nous serions frappés par une épidémie de dengue, c'est-à-dire...
On n'est pas à l'abri encore.
Tout à fait, vous savez qu'à Mayotte, il y a eu en même temps Covid et dengue. Et donc c'est... Pourquoi? Parce que ce qui me passionne, c'est les relations. Et les relations entre tous les éléments du vivant. Et nous n'avons pas le monopole du vivant. Donc, un virus, c'est rien, il n'y a pas de conscience, il y peut Proust. J'ai vu rarement des virus qui disent Proust. Mais il est vivant aussi, donc il a envie de continuer. Il a envie de se reproduire, il n'arrive pas. Donc il entre dans une cellule, il infecte pour se reproduire. Donc, le plus infime partie de la chaîne du vivant, c'est le virus. Et nous, on est à l'autre bout. Mais on est sur le même bateau.
Ce qui est assez incroyable, parce que vous avez étudié tout ça, c'est que toutes ces dernières années, on réussissait à résister quand même à l'ensemble des virus. On trouvait en fait des barrières, notamment sur le cochon, ça venait beaucoup...
Vous savez, regardez ce qui s'est passé avec le sida. L'Asie. Ouais. Le sida, il y a des traitements, il y a des traitements, mais il n'y a pas de vaccin. Pourquoi il n'y a pas de vaccin ? Parce que le virus, à la différence de celui du
Covid,
absolument, il mute sans arrêt. Donc, mais il y a des traitements avec les trithérapies, ce qui a permis d'échapper. Moi, ce que je voyais quand j'avais 35 ans, c'était une horreur absolue. Combien d'amis avons-nous perdu ? Et donc, on est sur un même bateau. Moi, ce que je dis dans ce livre, c'est que nous sommes une planète d'associés. Et nous nous croyons sans arrêt les maîtres. Mais quand je fais du bateau, moi, en compétition, c'est toujours moi le plus faible. Donc, ou on m'écrase la gueule, et donc le bateau est mauvais, ou on essaye de me respecter, de faire monter, et puis on arrive à des résultats corrects. Donc, vous voyez, c'est cette vision. On n'est pas seul, et on n'est pas les maîtres. Et on est fragile. On est fragile. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas continuer. Et alors, recherche. J'ai adoré l'entretien que vous avez eu avec le professeur de Montpellier.
Oui, de Montpellier, tout à l'heure.
Excellent, parce qu'il est clair. Et il a dit magnifique. Et il a dit cette vérité, c'est-à-dire qu'il faut se protéger, parce que même si on est touché, si on a de moindres charges virales, on aura une forme moins grave.
Et c'est pour ça qu'on résiste mieux.
C'est pas blanc-noir, c'est pas comme ça. C'est ça, le vivant. Le vivant, il n'y a pas de frontières. Le vivant, c'est toujours dans la nuance et c'est toujours dans le contact. Donc moi, je suis une sorte de reporter de ces contacts, vous voyez. C'est pour ça que je travaille sur l'eau, je travaille sur le papier, je travaille sur le coton, je travaille sur les moustiques. Et là, par exemple, je donne des cours de géopolitique des fleuves à l'école de guerre. Parce que imaginez le partage du Nil. Le partage du Nil entre ces trois pays immenses, entre deux immenses, qui sont l'Éthiopie et l'Égypte. Et si l'Éthiopie prend l'eau dont elle a besoin, l'Égypte n'a plus de Nil, vous imaginez. Donc c'est ça le vivant, comprenez, c'est ça.
Ça, c'est probablement l'une des prochaines batailles de l'humanitaire,
c'est clair.
Ça, c'est vrai. Il y a la lutte contre les virus, mais bien sûr, il y a aussi...
Vous avez une grosse enquête, d'ailleurs, avec Suez
Évidemment, évidemment, j'ai travaillé sur ça, parce que j'ai travaillé avec l'ancienne patronne Isabelle Cochère, qui était la patronne de la Lyonnaise des Eaux à l'époque. J'avais déjà travaillé sur l'avenir de l'eau, et je vais retravailler sur l'eau avec ce que je fais avec une ONG qu'on a créée, qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves, où il y a des responsables des plus grands fleuves du monde. Qui tous sont dans la dissuasion.
Et il n'y a pas de vivant sans eau.
Non, bien sûr que non. Imaginez ce qui se passe. Multiplication des barrages en Chine, eh bien, le sud du Mékong n'a plus d'eau.
C'est-à-dire
Laos, Cambodge, Vietnam, ils n'ont plus d'eau. Comment est-ce qu'on fait ? Et quand vous imaginez que 800 millions d'êtres humains vivent dans les deltas, 800 millions d'êtres humains, et que tous les deltas sont menacés parce qu'on a... on a multiplié les barrages.
Les barrages,
Donc barrage, ça veut dire plus de sédiments. Plus de sédiments, ça veut dire plus de delta. Et en plus, la mer monte.
Je fais une pause sur vous. Bougez pas, on revient dans un instant.
Mais on reviendra et on parlera du cochon.
Aussi. On parlera du cochon. Pardon.
Oh là là, mais moi, je pourrais vous écouter pendant des heures. Ne bougez pas, on revient tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h34, je comprends parfois pourquoi certaines personnes nous disent « il se passe quoi hors antenne ?» Eh bien, il se passe plein de trucs, si vous saviez. Eric Orsona est avec nous, cochon, voyage au pays du vivant aux éditions Fayard et Stock. On voulait revenir sur ce cochon et sur, effectivement, la proximité avec l'humain, en fait. Finalement, on se rend compte qu'on est très très proche avec cet animal.
Alors, on est proche génétiquement, puisque en gros, 95% c'est la même chose. Quand on s'aperçoit que les organes sont les mêmes, les organes sont disposés de la même manière,
ce qui
est très important, au même endroit. Et par exemple, la peau est la même. Ce qui fait que le cochon est très utile pour comprendre comment nous marchons et pour nous soigner. C'est-à-dire quand on a des problèmes de valves cardiaques, on nous implante des valves. Les principales valves sont les valves de cochon. Il y a du veau, mais aussi des cochons. Quand on a le diabète, l'insuline vient du pancréas du cochon. Et pour étudier le cancer de la peau, on a irradié malheureusement les cochons avec des variations, enfin des irradiations, et donc pour voir un peu comment ça se passait. Et il y a eu j'ai visité un laboratoire et je m'étonnais parce que il y avait des murs extrêmement épais et puis il y avait pas de fenêtres. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Ah bah c'est l'endroit où nous avions une coopération médicale avec le commissariat à l'énergie atomique. Ah bon ? Ah ben, dis-moi, oui, parce que nous avions un mécanisme d'irradiation pour voir ce que ça donnait à la peau et aussi comment ça détruisait la moelle. Et il y a eu un lien entre l'INRAE, c'est-à-dire la recherche agronomique, le CEA et l'équipe du professeur Dossé sur les greffes. C'est-à-dire comment on pouvait faire tout ça. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on est, on est en même temps, on est, encore une fois, je le redis, sur le même bateau. Ouais. On a besoin de lui, donc saluons-le.
Ouais. Aujourd'hui, vous savez, il y a la cause animale qui est fortement défendue. Ça, vous n'êtes pas effectivement insensible à ça.
Au contraire, moi j'ai signé, je me souviens des agriculteurs, au moment donné, quand j'ai signé des pétitions sur le bien-être animal, on dit, on croyait que tu étais avec nous.
Mais justement,
je suis avec vous. Donc, arrêtez de dire c'est pas possible, etc. Quand il y a des enquêtes de L214 dans les élevages, je peux considérer que ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être injuste parce que moi je fais pas comme ça. Mais il y en a d'autres qui font comme ça. Donc je leur dis, écoutez, c'est pas possible. Il y a certains traitements infligés aux animaux, c'est pas possible. On les tue, on peut les tuer de manière le plus, si je puis dire, la plus douce possible. Mais moi je ne suis pas, je ne suis pas végane. C'est-à-dire je suis omnivore comme on a été créé. Et puis, si vous voulez, quand vous ne mangez que des végétaux, il faut faire très attention parce que vous avez besoin de certaines protéines. Et puis quand on voit, vous savez ce qu'on appelle la viande après la viande, la viande sans viande, et ben on remplace par quoi? Est-ce qu'on remplace pas par beaucoup de soja? Est-ce qu'on va pas détruire d'autres choses? Est-ce que tous ces éléments-là, comprenez ce que j'essaye de
on
voir
on ne fait que déplacer le problème en fait.
Exactement.
Ce que
j'essaye de faire, c'est être à la fois extrêmement concret, rencontrer des gens, rencontrer des lieux, et en même temps voir un peu l'entièreté de la question. C'est comme dans le domaine nucléaire, vous dites ça vaut pas cher, l'industrie nucléaire. Et d'accord, mais bien sûr, si vous intéressez, vous désintéressez des déchets, comment vous faites? Donc vous voyez, c'est cette idée de voir que la vie est un grand système. Donc, et que tout ça est lié. Vous savez, en termes étymologiques, c'est-à-dire la vie est religieuse. Sans Dieu, elle est reliée. Nous sommes reliés. Nous sommes partie d'un énorme système qu'on appelle maintenant écosystème. C'est ça. Et nous, on ne nous a pas appris ça. Regardez en philo. Moi, j'ai fait de la philo comme un début avant de faire l'économie. Et on dit « je pense donc je suis ». Mais il y a des tas d'êtres qui ne pensent pas et qui sont. Virus, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas Proust. Et pourtant, il est là, combien comprenez? Donc on a été élevé dans le morcellement. Alors que c'est une unité. C'est une unité de la vie. Je pensais appeler ce livre à un moment donné l'unité de la vie.
C'est vrai. Pour revenir à ce que l'on vit, à ce qu'on traverse dans notre société aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ce monde n'est pas en train de devenir fou parce qu'on est tout de suite noir-blanc, comme on le disait tout à l'heure, alors que finalement, c'est ça, c'est cette unité.
Vous touchez vraiment.
Pourquoi on veut opposer les gens les uns aux autres?
Parce que vous touchez le cœur de la question. C'est que. Les relations sont de plus en plus intenses, on l'a vu en économie, on l'a vu avec les réseaux sociaux, donc les relations sont de plus en plus intenses. Ce qui fait que le monde est de plus en plus complexe. Complexe, il y a des gens qui aiment ça à peu près, comme moi, parce que j'ai la possibilité de voir un peu comment ça marche, et d'autres qui sont perdus. Donc ils préfèrent le simple, même si c'est faux. Donc ils s'accrochent au faux. Et ils inventent des trucs incroyables comme ce qu'on appelle les vérités alternatives. Que, d'une certaine manière, quand même, il faut bien voir que la vérité, elle existe et elle est différente.
Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit peu moins confiance aussi dans la parole scientifique parce qu'elle a été, à un moment donné, controversée. Et puis parce que la science n'est pas toujours exacte.
Mais bien sûr que non, parce que avance. Donc c'est ça la contradiction. C'est-à-dire que si c'est... Il y a pas d'accord entre les scientifiques, on dit « Ah, regardez, que dit la science ?» Et s'il y a trop d'accord entre les scientifiques, on dit « C'est la pensée unique. » Le principal risque que nous avons, c'est de rompre notre pacte de confiance avec la science, avec le savoir, de pouvoir dire n'importe quoi. Quand vous voyez cette contradiction actuelle en disant « On attend un vaccin le plus vite possible. » Il y a 35 vaccins qui sont concurrents, qui sont déjà en phase expérimentale. Donc, on veut de la rapidité. Mais on dit, quand il y aura un vaccin, ah, il est arrivé trop vite. Donc, vous voyez, on est sans arrêt dans la contradiction. Et donc, c'est compliqué, notre vie. C'est comme...
Comment se placer? Comment les Français doivent se placer?
Se placer parce qu'il faut expliquer, sans arrêt expliquer. C'est pour ça que mon utilité tout à fait éventuelle est des gens de ma sorte, et vous aussi. C'est d'expliquer ce que vous avez fait avec Montpellier, là, par exemple. Et d'expliquer un peu comment ça se passe. Donc, expliquer tranquillement, expliquer ces mécanismes. Regardez ce qui se passe avec les cultivateurs. Le budget d'une famille de la nourriture est passé en en 20 ans de 30% à 10%.
Ouais.
30% à 10%. Et on demande aux agriculteurs de produire de moins en moins cher. Et en même temps, de respecter de mieux en mieux. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas leur demander. Et on voit les agriculteurs dans des situations, mais terrifiantes. En disant, qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et donc, vous voyez, on est sans arrêt dans cette contradiction. Et donc, il faut un peu savoir ce qu'on veut. Comme on peut, si on prend pas les gestes barrières, ce que vous disiez tout à l'heure, si on respecte pas, on aura de nouveau des confinements. On le voit bien. Et le test, c'est la présence dans les hôpitaux, parce que je rappelle cette vérité d'évidence qu'on a oubliée, il n'y a pas que la Covid.
Il n'y a pas que les Covid.
Et combien je connais beaucoup de gens, ma femme est médecin, beaucoup de gens qui sont au fond morts parce que la Covid avait eu le monopole. Et c'est ça qu'on comprend. S'il y a trop de lits occupés, les autres, ils attendent pour les opérations, pour les traitements, pour les chimios, etc. C'est ça la vie, vous voyez, c'est un peu cette même chose. C'est cette promenade dans la vie que j'essaye de mener avec ces contradictions, ces possibilités. Et puis c'est salut aux chercheurs, en tout cas chercher. Moi, je les vois sans arrêt. Et ils travaillent, c'est magnifique ce qu'ils font.
L'épidémie de coronavirus, là, est-ce qu'elle n'est pas en train de révéler aussi... au grand public, en fait, à tout le monde, tous les effets de la mondialisation que vous connaissez bien depuis des années, pour avoir beaucoup travaillé sur le cacao, sur en fait énormément de choses quand vous étiez économiste. Aujourd'hui, notre rapport à cette mondialisation va changer ou pas ?
Alors, le rapport va changer, en tout cas pour un premier temps, et puis après, j'en ai peur, revenir à nos travers d'avant.
Ah oui, parce vous croyez
que, écoutez, je vois qu'on dit on veut produire plus près de chez nous. Et puis on s'aperçoit que ça vaut plus cher. Pourquoi ? Parce que la concurrence, elle est complètement inégale entre les agriculteurs français qui respectent des normes et d'autres qui respectent pas du tout de normes. Alors heureusement qu'on va pas ratifier notre accord avec l'Amérique latine où on sait pas comment on élève les bêtes. Franchement, c'est quand même. Et après, comment est-ce qu'on peut faire ? Vous comprenez ?
Est-ce que c'est pas un pays trop normé ? On en parlait justement.
C'est un pays très trop normé, mais en même temps, les Français, il faut qu'ils choisissent un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils veulent une meilleure santé, il faut prévenir mieux. Et prévenir mieux, il faut respecter mieux la vie. Et mieux la vie, c'est-à-dire respecter mieux la nourriture, respecter mieux ce qu'il a produit, respecter les gens dans ce qu'on appelle les gestes barrières, mais comme partout, c'est-à-dire, on a oublié un peu le respect.
Maintenir les gens en bonne santé avant qu'ils tombent malades.
Mais attendez, moi j'ai participé il y a 2 ans à une réunion où il y avait l'ordre des médecins, les pharmaciens, etc. Et toute la journée, ils parlaient, tout ça, etc. Et j'aurais dit, c'est étrange parce que il y a un mot qui a manqué pendant toute la journée. Ah bon, c'est lequel ? C'est le mot prévention. Et vous vous étonnez qu'on met de plus en plus de fric, un fric de dingue. On met de plus en plus de fric dans le soin et notre situation de santé sanitaire a tendance à baisser. Pourquoi ? Prévention. C'est-à-dire le meilleur médecin à la chinoise, vous savez, vous payez tant que vous êtes en bonne santé. C'est l'inverse. C'est l'inverse de notre position à nous. Donc là, comme toutes les crises, c'est une opportunité dans la vie personnelle comme la vie des sociétés. Qu'est-ce qu'on va en faire ?
Mais là, on peut se reconstruire quand même aujourd'hui un petit peu à travers ça, parce qu'on a vu qu'on dépendait de la Chine, de l'Asie, parce qu'on produisait pas cher pour beaucoup de choses. Évidemment, aujourd'hui, on peut quand même essayer de reconstruire un petit peu, non ? Sans fermer toutes les frontières,
Exactement. Et c'est exactement l'enjeu maintenant. C'est-à-dire que moi, je participe de pas mal de réunions sur le monde d'après. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est savoir où ça se passe. Et donc, je suis très attaché à des espaces qui sont des espaces vraiment solidaires. Et donc, quand je participe, par exemple, à la réflexion sur l'avenir de la Bretagne, qui est principalement touchée par ce système.
Parce que vous êtes d'origine bretonne.
Et il faut se rappeler que dans les années 50, dans ma prime jeunesse, enfance, c'était vraiment de la misère. Et elle est sortie de la misère grâce aux élevages. Maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Continuer à multiplier les ports en Bretagne? Forcément, il faut arrêter à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait? Et donc, c'est passionnant. Parce que vous avez...
Parce que si on arrête, il faut autre chose.
Attendez, les gens qui disent, qui prennent le TGV, qui disent les algues vertes, c'est pas bien, et qui reviennent, non, ça franchement, c'est que
ça tue un petit peu.
C'est le mépris, quel mépris des gens. Donc qu'est-ce que c'est la transition? Comment est-ce qu'on fait? Et puis c'est à la fois la transition écologique, la transition de l'agriculture, c'est le fait que les gens se précipitent vers les rivages, c'est les gens qui viennent en Bretagne parce qu'il fait plus chaud ailleurs. Vous voyez, donc tout, vous savez, c'est ça qui me...
C'est valable pour la Bretagne et c'est valable pour d'autres régions, bien sûr.
Donc essayer de... C'est pour ça que, vous savez, un écrivain, c'est pas un romancier, c'est pas un essayiste. Ouais. C'est-à-dire un personnage. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris le personnage du cochon, parce qu'il incarne tout ce qui est émouvant, tout ce qui est bon pour la santé ou mauvais pour la santé, bon pour l'environnement ou mauvais pour la santé, c'est une sorte de miroir. C'est pour ça que j'ai travaillé sur l'eau aussi. Parce que dis-moi, comment tu gères l'eau? À quel prix? Au bénéfice de qui? Je te dirai exactement à quelle société tu appartiens. Ouais. C'est pas pour voir sa gueule que je travaille sur l'eau. Ouais. Parce que franchement, moi je la vois, mieux ça vaut.
Bon, il a de l'humour en même temps, tout en maniant toutes ses connaissances. Merci
Eric. Au théâtre de 10h tous les soirs, à partir de demain.
Voilà, c'est ça.
Si je fais avec vous.
Avec plaisir. Bah, alors c'est le théâtre des deux ânes.
Très bien. Et je vais faire géopolitique de l'âne.
Merci Eric Orsenna, cochon, donc Voyage au pays du vivant. C'est toute une réflexion hein, sur l'avenir aussi de l'humanité à travers donc le cochon qui est notre l'animal sans doute l'un des plus proches en tout cas de l'être humain. C'est
et
passionnant.
Merci pour votre bonne humeur.
Oui, absolument, bien sûr. Dans un instant.
Ça va m'empêcher.
Et puis donc on verra pour les dates pour le théâtre des deux ans. Cécile de Ménibus, Eric Orsenna, je veux voir ça sur une même affiche.
Faut qu'on écrive d'abord.
Vous avez parlé de géopolitique dans tout à l'heure. On va évoquer cela avec Emmanuel Razavi, comme chaque vendredi, Global Geo News, qui sera avec nous. Et on va s'interroger sur la liberté d'expression. Est-ce qu'elle est en danger en France, mais également à l'étranger, jusqu'à 10h? Et vous
bon
pouvez nous appeler.
Hein, oui, restez là, il est 9h47.
Oui. Ah bah attendez.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h51, on est ensemble jusqu'à 10h. On va évoquer faire un peu de géopolitique ce matin avec Emmanuel Razavi de Global Geo News. Bonjour.
Bonjour Cécile.
Bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Alors, avec vous, hein, on va sur le terrain, dans le monde entier, mais également en France, évidemment. Et la liberté d'expression, on se pose cette question avec vous ce matin. Est-ce qu'elle est véritablement en danger? On l'a vu, il y a eu un texte qui va être repris dimanche prochain. C'est une lettre ouverte pour appeler les Français à défendre la liberté d'expression. Ce sera dans le journal du dimanche. Sud Radio, d'ailleurs, est signataire. On se pose la question, hein. Est-ce qu'on peut encore blasphémer? Est-ce qu'on doit avoir peur du retour de la censure dans notre pays? Emmanuel, vous avez consacré beaucoup de reportages à ces questions, à cette enquête. Est-ce que la liberté d'expression est menacée? Alors, est menacée en France?
Alors, la liberté d'expression, elle est menacée dans de nombreuses démocraties. Elle est menacée aujourd'hui dans des pays hein, comme les États-Unis. Et évidemment, oui, en France. Parce que si en France, comme dans d'autres démocraties, la liberté est protégée, encadrée par la loi, on se rend bien compte qu'elle est menacée lorsque des caricaturistes sont assassinés par des terroristes ou simplement menacés par des associations religieuses musulmanes qui leur dénient le droit de blasphémer, tentent de faire jurisprudence en fait en la matière. Hein, c'est ce qui s'est passé à l'époque du procès qui a opposé l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, à Charlie Hebdo. On sait comment ça s'est terminé. La censure, elle est présente aussi, hein, en tout cas la volonté de censure, lorsqu'une députée de la République, Laetitia Avia, veut faire passer une loi anti-haine qui a vocation à interdire la critique, notamment de certaines religions. C'est du jamais vu en la matière, en tout cas en France, et notamment sous la Ve République, c'est du jamais vu. On l'a aussi vu, Patrick, avec la crise du Covid. Depuis le début de la crise du Covid, il y a eu une tendance en fait au contrôle à la liberté d'expression pour des motifs qui étaient souvent des motifs liés à la préservation finalement de l'ordre public. Ainsi, on a vu par exemple la porte-parole du gouvernement, l'ex-porte-parole, qui a mis en ligne une plateforme dont la vocation était de dire aux Français en gros quels étaient les médias crédibles, par voie de conséquence, ce qui ne l'était pas. C'est intéressant, je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait, par exemple, cité des journaux comme Libération, mais il n'y avait pas le Figaro. Alors, au nom de quoi, le Figaro serait moins crédible que Libération?
Ouais, c'est vrai.
C'est digne d'une dictature. Et puis, mis bout à bout, on voit bien, quand on regarde tout ça, qu'il y a une volonté de maîtriser la liberté d'expression, celle de la presse, évidemment, hein, je viens d'en parler, quelque part, celle de penser, hein, parce que les trois sont liés.
Ouais. Bon, il faut reconnaître aussi, parfois, peut-être, qu'il peut y avoir des abus. Est-ce qu'on ne peut pas toujours tout dire, peut-être, non?
Non mais bien évidemment, vous avez entièrement raison, il faut le rappeler sans cesse, il y a des choses où on ne peut pas, l'antisémitisme est très clairement interdit et tant mieux, donc il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire. La déclaration des droits de l'homme d'ailleurs et du citoyen précise justement qu'il peut y avoir ce type d'abus et que si tel est le cas, ils doivent être punis. Par contre elle n'est pas très claire parce qu'elle ne dit pas qui est en mesure de définir la nature d'un abus en matière de liberté d'expression. En l'occurrence, c'est seulement la loi, en fait, qui peut le déterminer. Mmh. En aucun cas, ça ne peut être, en fait, une association religieuse, un groupuscule qui défend tel ou tel intérêt, ou encore moins un ministre, encore une fois. Donc sinon, on arrive à ce que souhaitent les tenants de la cancel culture, c'est ce qu'on voit en ce moment. Oui. C'est-à-dire qu'on va arriver à une forme de révisionnisme, en clair. Les tenants de cette cancel culture aujourd'hui, ils veulent interdire les auteurs de livres, d'articles, de pièces de théâtre, les philosophes aussi, qui ne penseraient pas comme il faut. Ouais. Donc encore une fois, une posture en fait de ce type-là, elle va aboutir inévitablement à une forme de révisionnisme, et donc à une sorte de dictature de la pensée qui ne va pas dire son nom. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'écrit George Orwell dans son livre 1984.
Ouais.
D'autant ce vers quoi on est en train de glisser,
d'autant,
en tout cas si on n'y prend pas garde.
Ouais, c'est ça. D'autant que s'ajoute aussi des relais de mouvement et des intérêts économiques comme Facebook, Twitter, Google, qui sont souvent accusés de censure ou simplement de vouloir manipuler les opinions.
Alors oui, et vous avez raison, et c'est très intéressant d'en parler parce que on ne le mentionne pas assez.
Ouais, ouais.
Nous, on a un de nos journalistes, Maxime Chez, qui a publié une enquête il y a quelques temps sur Global Geo News, dans laquelle il raconte les liens de Google, d'accord, avec des agences du renseignement américain, pour ne pas les citer, c'est la NSA et la CIA.
Ouais.
Or, il vous a pas échappé que Google a de plus en plus vocation à devenir un média. En clair, c'est aussi un média.
Ouais.
Donc, il véhicule de l'information.
Ouais.
Or, c'est clair, un média n'a pas à être contrôlé par un service secret, ou en tout cas, tout au moins, n'a pas à avoir de lien avec un service secret qui pourrait soit récupérer de l'information, soit le pousser à aller dans tel ou tel sens.
Ouais, ouais.
Vous avez autre chose, parce que vous parlez effectivement des réseaux sociaux, en fait, au sens large. Sur Twitter, sur Facebook, vous avez des comptes de journalistes, de caricaturistes, qui ont été désactivés à plusieurs reprises, car leurs propos étaient jugés non conformes à l'éthique de ces plateformes.
Ouais.
Mais il y a une vraie question à poser. Quelle est la légitimité, en fait, de ces plateformes pour se constituer, si vous voulez, en arbitre de l'éthique ou de la morale?
Ouais.
Qu'est-ce qui leur donnerait le droit de censurer les uns et de permettre en même temps, alors par exemple, à des tenants du racialisme ou de l'islamisme, de proférer des menaces de mort en toute impunité sur des gens qui vont critiquer en fait une religion, par exemple, ou encore une fois, un groupe d'intérêt.
Ouais.
Alors moi, la vraie question pour moi aujourd'hui, parce qu'elle est éminemment politique, mais vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'on parle aussi de géopolitique, ça concerne pas que la France, c'est international, ça impacte finalement les démocraties, c'est quels intérêts servent ces plateformes lorsqu'elles exercent ou qu'elles tentent d'exercer un contrôle de la liberté d'expression qui est finalement totalement inique, parce qu'il consiste à nous dire ce qu'on a le droit d'exprimer ou pas, ce qu'on a le droit de penser ou pas. Et ça doit être une vraie question, un vrai débat, parce que quelque part, il en va de l'avenir de nos démocraties. France, je vous parlais des États-Unis, Google et Facebook, c'est américain.
Il nous reste 10 secondes. Emmanuel Razavi, c'est un phénomène mondial. En un mot, est-ce qu'il y a une solution?
Oui, alors déjà, il y a une solution, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense, comme disait Camus, c'est de nommer les choses, c'est d'en parler. Il faut que les médias le relayent. C'est ce que vous faites avec le JDD dimanche, c'est qu'à un moment donné, il faut que la presse se positionne comme le défendeur de la liberté d'expression, pas que de la presse, parce que dans un pays dans lequel la liberté de la presse recule, systématiquement, la dictature avance, et c'est surtout la liberté d'expression au sens large qui est menacée. Il faut aussi rappeler, encore rappeler, réaffirmer que critiquer une religion, critiquer une idée, c'est un droit absolu, c'est un droit qui est nécessaire, puis il faut se pousser à ramener de la réflexion, tout simplement, dans l'espace public, comme nous le faisons là.
Oui, merci Emmanuel Razavi de Global Geo News. Donc chaque vendredi avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert, André Bercoff aussi ce midi, qui va recevoir une boxeuse de Barbès qui s'est engagée dans la police. Ça, c'est à suivre. Ce sera dans Bercoff, dans tous ses états. Puis sa partie culture aussi, 13h à 14h.
Et puis vous n'oubliez pas, bien sûr,
le week-end.
Toute la grille de la
Philippe
journée.
Philippe David, demain aussi, aux commandes de la matinale week-end. Allez,
absolument.
On est un petit peu à la bourre. Ciao,
allez,
ciao. On vous embrasse.